Crédit Immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour parler du dialogue politique en Guinée. C'est le thème de notre débat ce lundi. Dans la seconde partie de l'émission, nous évoquerons la volonté des principaux partis politiques de boycotter ce fameux dialogue. Les discussions ont commencé il y a quelques jours maintenant, sans le RPG de l'ancien président Alpha Condé, sans l'alliance de Sélou d'Alain Diallo et sans le FNDC qui rassemble la société civile. Alors comment croire que ces échanges pourront cette fois-ci mener à autre chose que le précédent dialogue il y a quelques mois? La classe politique a-t-elle raison, selon vous, d'opter pour la politique de la chaise vide? Vous pouvez nous appeler pour participer. On se retrouve dans une demi-heure. Et d'ici là, comme chaque jour, nous répondons à vos questions sur l'actualité. La première aujourd'hui nous vient de Bangui. Bonjour Siméon.
Bonjour Anne.
On vous écoute.
Samedi, l'ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé a fait son retour en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il aujourd'hui de sa relation avec l'ancien président Laurent Gbagbo? Peut-elle jouer sur son avenir politique en politique?
Alors pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Binta Diagne, envoyée spéciale permanente de RFI à Abidjan. Bonjour Binta.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Les relations entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo remontent à loin. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était lui qui avait les capacités de mobilisation, notamment auprès des jeunes. Charles Blé Goudé a aussi été ministre de la jeunesse d'un gouvernement de Laurent Gbagbo. C'est le signe de l'estime, de la confiance entre les deux hommes. Et puis, il y a eu bien sûr la justice internationale, cet épisode où les deux leaders politiques ont dû se serrer les coudes pour préparer leur défense à la CPI. Qu'en est-il aujourd'hui, Binta, maintenant qu'ils sont tous les deux de retour en Côte d'Ivoire?
Alors, je vais vous citer une phrase que dit Charles Blé Goudé. « Je n'ai pas de problème du tout avec le président Laurent Gbagbo et on aura l'occasion de se parler. » C'était sur notre antenne jeudi dernier. Le leader du COGEP a d'ailleurs envoyé des émissaires auprès du PPACI pour déposer une demande de rencontre. Alors, pour le moment, il n'y a pas de réponse formelle à cette requête, mais officiellement, la porte reste encore ouverte. Je ne serai jamais l'adversaire politique du président Laurent Gbagbo, quelqu'un avec qui j'ai tout appris, quelqu'un avec qui j'ai partagé la douleur de la prison, souligne Charles Blé Goudé. Au PPACI, par contre, on est beaucoup plus nuancé que ça. Il faut noter d'abord que Laurent Gbagbo n'était pas présent à l'aéroport samedi pour accueillir Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien n'a pas non plus été représenté par des poids lourds du PPACI. Certes, il y avait 5 représentants, selon Charles Blé Goudé, du PPACI, mais on ignore encore leur identité. Ce n'étaient pas, en tout cas, des figures du PPACI. Et cette absence est un signe qui prouve que les relations entre les deux hommes restent très, très tendues, selon un cadre du PPACI. Le fond du problème, explique cette source, tient au fait que Charles Blé Goudé n'a pas spontanément intégré le parti de Laurent Gbagbo au moment de sa création l'année dernière. Charles Blé Goudé avait alors éludé son adhésion, estimant qu'il fallait attendre son retour au pays pour y répondre.
Et alors, est-ce que cette relation, cette proximité et ces tensions, comme vous nous le disiez, peuvent jouer sur l'avenir en politique de Charles Blé Goudé, comme nous le demandait Siméon?
Alors en fait, Anne, tout va dépendre de la manière dont Charles Blé Goudé compte organiser son parti, le COGEP, et des alliances surtout qu'il compte tisser avec les autres partis politiques en général. On a déjà vu samedi que Simone Gbagbo, du Mouvement des Générations Capables, et Pascal Affine-Guessant, le leader du FPI, étaient présents à la fois à l'aéroport pour l'accueillir, mais aussi à Yopougon pour ses retrouvailles avec ses militants. Et ça, c'est vraiment un signal très fort qui a été lancé. Charles Blé Goudé a l'image un peu d'un rassembleur de la gauche, me disait le chercheur Sylvain Guessant. La question qui se pose, dans le fond, c'est de savoir si Charles Blé Goudé a vraiment intérêt à fusionner son parti avec la formation de Laurent Gbagbo. Si Charles Blé Goudé revient à la maison, entre guillemets, il occupera un second rôle, tout en sachant que d'autres leaders occupent déjà des postes clés, poursuit Sylvain Guessant. Par ailleurs, il faut souligner un autre fait, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte marqué par une tentative de renouvellement de la classe politique. C'est ce que dit en tout cas le professeur Mauritier Camara. Charles Blé Goudé, observe ce chercheur, a envie de jouer sa propre partition. Pas question pour lui donc de laisser phagocyter son parti au profit du PPACI. Fin de citation.
Siméon, vous aviez une autre question à propos de ce retour de Charles Blé Goudé?
contribuer au processus de réconciliation. Fait-on ce qu'il envisage de faire ?
Siméon, on n'a pas entendu vraiment vos premiers mots, mais vous nous citiez effectivement Charles Blégoudet qui a dit en rentrant qu'il avait bien l'intention de participer au processus de réconciliation. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il envisage, Binta ?
Alors effectivement, c'est ce qu'il répète hein, depuis un mois, depuis qu'on sait qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et dès son arrivée samedi, Charles Blégoudet a véhiculé d'abord un message d'apaisement auprès de ses militants. Ensuite, demain, il devrait être reçu en audience par le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Berthin. Et au cours de cet entretien, on imagine bien qu'il sera question de son rôle dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et puis Charles Blégoudet a déjà indiqué qu'il souhaiterait mener une caravane de la paix dans les semaines à venir. L'idée pour lui, c'est de faire le tour du pays et d'aller à la rencontre des Ivoiriens, de parler avec eux.
Binta Diagne en direct d'Abidjan, merci d'avoir répondu aux questions de Siméon. Très bonne journée à tous les deux. Autre question ce matin à propos de la Guinée. Bonjour Satigui.
Bonjour Anne, bonjour Odoye Kabinaï, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
En ligne de Conakry, on vous écoute.
Et Anne, le dialogue interguinéen s'est ouvert la semaine dernière malgré l'absence de certains partis politiques. Les conditions posées par ces partis pourront-elles être entendues afin qu'ils puissent participer ?
Alors pour vous répondre, vous étiez au courant un peu des coulisses de l'émission, visiblement le politologue Kabiné Fofana est à côté de moi, directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques, bonjour.
Bonjour Anne.
Les partis politiques avaient posé 10 conditions, et notamment la libération des leaders qui sont détenus en ce moment, ou encore la publication d'une liste pour connaître tous les membres du CNRD, de la junte. On leur avait répondu que tout ça, ça pourrait être discuté au moment du dialogue, mais pas avant. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce qui peut être fait, des questions qui pourront être débattues ?
Il faut dire que dans un courrier adressé au Premier ministre le 23 décembre, le 23 novembre plutôt, le Premier ministre a donc répondu au Quatuor qui est devenu plutôt un trio maintenant, puisque la Corée de Mamadou Sylla a claqué la porte. Le Premier ministre avait donc demandé à ce que les acteurs de l'ANA, du RPG arc-en-ciel et du FNDC politique viennent autour de la table. Et en raison de la présence du G5 Guinée, mais aussi du médiateur, que toutes ces questions peuvent être discutées, sauf que...
De l'ancien président béninois, Thomas Boni.
L'ancien président Thomas Yayi, sauf que le trio ANA de FNDC, RPG, Arc-en-Ciel et Alliés ont tout simplement demandé qu'il faille d'abord faire un pré-dialogue qui va déterminer, disons, les TDR et les questions qui vont être débattues au cours de ce dialogue-là. Et donc, malgré la présence du G5 Guinée et du médiateur, le trio LANAD, RPG Arc-en-Ciel et Alliés et le FNDC politique ne sont pas venus jeudi 24 novembre à ce dialogue-là.
Et est-ce que leurs conditions, ce qu'ils demandaient, peut être entendu encore aujourd'hui ? Parce que le dialogue doit durer 3 semaines, donc tout est encore possible.
Je pense qu'il y a dans ce qu'on appelle un peu les 10 commandements du trio des conditions qui peuvent être des préalables, qui peuvent être justement assouvis en vue donc de permettre à ce qu'ils participent au dialogue. Je pense notamment au fait qu'aujourd'hui, ce ne serait pas compliqué de publier la liste nominative des membres du CNRD et de demander tout simplement que ceux qui sont arrêtés en raison de leur engagement politique ou même social soient tout simplement jugés et que l'on lève, par exemple, l'interdiction de manifester qui, à mon point de vue, ne sont pas des conditions compliquées à mettre en avant.
Donc ça, selon vous, ça serait possible. Satigui, vous aviez une autre question à propos de ces discussions politiques ?
Bien sûr, Anne. Si ces partis maintiennent leur boycott, que peut-on attendre de ce dialogue ?
C'est vrai qu'on a du mal à voir ce qui pourrait vraiment ressortir des discussions en l'absence de ces 3 poids lourds.
Oui, absolument. Il s'agit quand même de partis politiques importants. Vous avez le RPG Arc-en-Ciel qui était aux affaires pendant les 10 dernières années. Et vous avez l'UFDG, le parti challenger donc du RPG, et d'autres organisations de la société civile, et non des moindres, qui sont quand même, comme vous l'avez dit tantôt, qui sont très importants. Donc, ne pas les avoir à ce dialogue-là pourrait porter un coup, naturellement, à la validité et même à la légitimité des actes qui seront posées ou de l'acte du dialogue. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a un travail fondamental à faire du côté du CNRD, en s'appuyant bien évidemment sur le médiateur Thomas Yahi Boni, le docteur Boni, pour qu'enfin ces acteurs importants-là viennent autour de la table. Et d'ailleurs, à l'entame du dialogue, le médiateur qui était présent avait donc invité le FNDC politique, le RPG arc-en-ciel et l'ANAD à venir autour de la table pour qu'enfin un dialogue, comme il a dit, sincère, soit porté en vue de la refondation de l'État si cher au CNRD.
Donc, des perspectives encore possibles, et sinon un avenir un peu fermé, en tout cas en l'absence de ces trois poids lourds. Cabinet Fofana, merci beaucoup d'avoir été en studio pour répondre aux questions de Satigui. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques. On va reparler tout à l'heure de ce dialogue à Conakry dans la seconde partie de l'émission. Dites-nous ce que vous pensez de cette politique de la chaise vide de la part de l'opposition. Est-ce que vous attendez de ces échanges qui s'annoncent donc un peu compliqués dans ce contexte? Il est encore temps de nous appeler au 33 9 693 693 70. C'est le même numéro pour nous poser vos questions sur l'actualité. Vous nous sollicitez et toute l'équipe de l'émission cherche la meilleure personne pour vous répondre. Bonjour Fiacre.
Bonjour Madame Anne.
Vous êtes en ligne de Bangui, on vous écoute.
Ouais, au fait, moi, j'ai une question à vous poser. Je dis Bangui a été choisi par une délégation de BRICS pour accueillir son prochain siège en Afrique centrale. Comment expliquer l'ouverture de ce bureau à Bangui, alors que la République centrafricaine ne fait pas partie de cette alliance? Et quels avantages apportera cette ouverture à la République centrafricaine?
Alors, on vous entend pas très très bien, Fiacre. Donc, vous nous le rappeliez, Bangui a été choisi pour accueillir le prochain siège en Afrique centrale des BRICS. Et François Mazet nous a rejoint pour nous en dire plus. Bonjour François.
Bonjour Anne et bonjour Fiacre.
C'est vrai que ça peut sembler un peu surprenant ce choix de Bangui.
Alors, il faut dire que les BRICS sont dans une démarche d'ouverture vers de nouveaux partenaires ces derniers mois. Tout cela, bien sûr, est-à-dire dans le contexte international. La Russie tâche d'apparaître comme un leader anti-occidental pour limiter les retombées négatives pour son image et pour son économie de l'invasion de l'Ukraine et de son échec militaire. La Chine, de son côté, bien sûr, est en conflit économique et stratégique avec les États-Unis. Ces deux pays voient dans cette organisation des BRICS un possible contre-pouvoir au G20, le club qui rassemble les pays les plus riches de la planète, dont les BRICS font par ailleurs partie. Plusieurs pays ces derniers temps se sont rapprochés de cette alliance, l'Iran, le Venezuela, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, ou encore sur le continent africain, l'Algérie, qui a fait formellement une demande au début du mois pour rejoindre l'organisation.
Alors le continent africain, c'est une zone d'intérêt, évidemment, pour les BRICS, mais qui est encore loin d'être une priorité quand même, François.
Oui, en octobre, lors d'une visite au Sénégal, une délégation a annoncé l'ouverture d'un siège ouest-africain à Saint-Louis. Et maintenant, donc, c'est à Bangui qui a annoncé un siège en Afrique centrale. Par ailleurs, alors que la Chine suit son propre agenda, qui a comme matrice de son influence les nouvelles routes de la soie, la Russie, qui dirige actuellement les BRICS via la diplomate Larissa Zelensova, elle essaie de s'en servir comme un levier diplomatique. On connaît les liens des autorités centrafricaines avec la Russie officielle et avec la Russie officieuse. Donc il n'est pas vraiment surprenant que les BRICS mettent la RCA en avant, Bangui comme siège pour un bureau régional. En tout cas, en termes de communication, c'est une stratégie efficace.
Et est-ce qu'il y a des avantages pour la Centrafrique?
Alors là, c'est toute la question. Lors de cette visite, la délégation a promis que des financements pourraient être accordés à des projets que la République centrafricaine proposerait, notamment dans le domaine de l'énergie, que l'organisation estime être la matrice de son développement, du développement en général. Les BRICS ont mis en place une banque, ça s'appelle la Nouvelle Banque de Développement, qui est basée à Shanghai, mise en place en 2014, qui pourrait être utilisée, mais faute de détails sur le sujet, ça reste encore assez flou. Pour la RCA, en théorie bien sûr, alors que le pays est fâché avec ses partenaires institutionnels comme la Banque mondiale, ce serait intéressant d'avoir de nouvelles connexions avec cet ensemble qui représente quasiment la moitié de la population et un quart de la richesse mondiale. Mais les BRICS, en réalité, c'est un ensemble hétéroclite. La Chine pèse plus que tous les autres membres réunis, même beaucoup plus. Et puis, elle a aussi des ambitions divergentes de l'Inde. Il y a des divergences aussi avec la Russie. Donc, pour répondre à la question de Fiacre, passé l'effet d'annonce de cette visite, les retombées réelles restent encore à définir.
François Mazet pour répondre à Fiacre qui était en ligne de Bangui. Merci d'avoir été avec nous. Il nous reste quelques minutes encore avant le prochain journal, avant l'actualité africaine, le temps d'une dernière question. Bonjour Sidiki.
Bonjour Anne.
Vous êtes en ligne de Conakry et on va parler espace avec vous. On vous écoute.
Ok. L'Agence spatiale européenne a obtenu 17 milliards d'euros pour faire programme. C'est une hausse de 17% par rapport au dernier financement. J'aimerais savoir, comment expliquer une telle augmentation du budget de l'Agence spatiale européenne?
Notre spécialiste Simon Rosé vous répond. Bonjour Simon.
Bonjour Anne, bonjour Sidiki.
Cette hausse, elle correspond aux attentes, aux demandes de l'Agence spatiale européenne. Et c'est une très forte hausse, donc, malgré la crise économique et le contexte qu'on connaît.
Mais pas au niveau de ce qui était espéré. L'Agence spatiale européenne aurait bien aimé avoir 18,5 milliards. C'était une hausse de 25% par rapport à son dernier budget. En fait, les budgets de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, sont définis tous les 3 ans. Cette fois, ils ont eu que 16,9, 17 milliards. Ça marque, c'est quand même 17% d'augmentation, comme le disait Sidiki, ça marque quand même une vraie volonté des États européens d'investir dans le spatial pour plusieurs raisons. Il y a des enjeux de souveraineté aujourd'hui, de télécommunications. L'Europe veut se doter d'une constellation de satellites de communication indépendante des États-Unis. En termes d'accès à l'espace, pour envoyer toutes sortes de satellites, on sait que c'est très utile dans le domaine d'observation de la Terre, dans le domaine militaire, dans le domaine des télécoms. Donc il y a un vrai enjeu de souveraineté. C'est un peu là-dessus que l'accent a été mis pour donner cet argent. Dans cette période, comme vous le disiez, Anne, d'inflation, de crise énergétique, ils se sont quand même mobilisés pour offrir ce budget à l'ESA.
Et justement, à propos de la souveraineté que vous évoquez, je crois que Sidiki, vous aviez une autre question pour Simon.
Oui. Cela suffirait-il pour rivaliser avec les agences spatiales américaines et chinoises?
Plus 17%, ça suffit?
Alors, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais clairement, en termes de volume, on n'y est pas. Par exemple, comme je disais, c'est un budget pour 3 ans. 17 milliards, les États-Unis, c'est 20 milliards par an. Donc, on n'est pas au même niveau. Par rapport au programme spatial chinois, avec 1 milliard, on fait plus de choses en Chine qu'en Europe. La Chine a une station spatiale avec des astronautes qu'elle peut envoyer seule dans l'espace. L'Europe n'a pas ça. Elle n'a pas le moyen d'envoyer ses astronautes dans l'espace. Elle faisait appel aux Russes et désormais aux Américains pour le faire. Et les États-Unis sont encore dans une autre cour. Cela dit, il était important aux yeux des responsables européens du secteur de ne pas être lâché, de ne pas être trop devancé.
Trop à la traîne.
Ça va dans ce sens-là, mais clairement, le programme spatial chinois et le programme spatial américain sont beaucoup, beaucoup plus développés que celui de l'Agence spatiale européenne, ne serait-ce que sur les fusées, qui est un peu quand même le nerf de la guerre. Si on veut faire de l'espace, il faut quand même avoir des lanceurs. Ariane 6, qui est la prochaine fusée européenne, a un an de retard. Elle devait décoller en cette fin d'année, elle finalement sera fin 2023. Et pendant ce temps-là, Ariane 5, l'actuelle, va finir au printemps, donc il y aura un gap d'une petite année minimum, s'il n'y a pas d'autre retard, où on n'aura plus de lanceurs lourds en Europe, ce qui peut être handicapant pour un certain nombre de missions qu'on ne pourra plus mettre dans l'espace nous-mêmes. On sera obligé de faire appel aux Américains. En termes de souveraineté, c'est clairement pas l'idéal. Donc il y a cette volonté, mais on n'est clairement pas au même niveau que les homologues de la NASA ou de la CNSA, l'Agence spatiale chinoise.
Est-ce qu'on peut s'attendre à une réduction des ambitions, peut-être?
Non, parce que ça reste quand même un budget en hausse, malgré tout ce que je dis. Donc on va faire plus de choses, notamment sur l'exploration humaine et robotique, c'est le budget qui a le plus augmenté. Dans le cadre du programme Artemis de retour vers la Lune lancé par la NASA, dans lequel l'Europe est partenaire, donc elle va développer un certain nombre d'outils pour ce programme. Mais sinon, en termes de volume, le premier poste de dépense de l'Agence spatiale européenne, c'est l'observation climatique de la Terre, des satellites qu'on envoie dans l'espace pour faire de la science climatique. Et là, de loin, c'est un peu plus de 2 milliards de têtes. C'est clairement le premier budget de dépense de l'Agence spatiale européenne.
Donc des ambitions maintenues et un budget quand même à la hausse. Merci beaucoup Simon Rosé d'être venu nous en dire plus sur ces projets de l'Europe de l'espace. Et merci Sidiki de nous avoir appelés. Il est presque 9h30 ici à Paris. Dans quelques instants, toute l'actualité africaine et nous on se retrouve juste après pour le débat. Que penser de la politique de la chaise vide en Guinée, de l'absence de l'opposition au dialogue initié par la junte ?